Sœurs et frères, je voudrais commencer cette méditation par un problème théologique. Peut-être certains le connaissent d'ailleurs. D'après vous, si Dieu est tout-puissant, serait-il capable de créer une pierre si lourde qu'il ne puisse lui-même la porter ? Vous voulez que je répète le problème théologique ou ça va ? Dieu, si Dieu est tout-puissant, peut-il créer une pierre si lourde qu'il ne pourra pas la déplacer ? On serait tenté de répondre que si Dieu crée une pierre trop lourde pour lui, c'est qu'il n'est pas tout-puissant. Et si Dieu n'est pas capable de créer cette pierre, pareillement, il sera recalé à l'examen de la toute-puissance, incapable de créer. Ou alors, troisième voie possible, quelque chose nous échappe dans l'idée de la toute-puissance. Pouvoir créer quelque chose qui nous dépasse, ne serait-ce pas, au contraire, l'expression de la puissance absolue, qui se révélerait alors être une puissance de grâce et d'amour. Je vais essayer d'expliquer ça ce matin. Donc cette petite entrée en matière pour pointer le problème soulevé ici par la pensée de Paul à propos de la puissance et de la faiblesse en Dieu. Toutes les religions s'accordent pour présenter l'image d'un Dieu tout-puissant qui sait tout, qui peut tout, qui est partout. Mais la religion chrétienne ajoute aussi qu'il est amour. Et c'est là que commencent les problèmes. Paul Ricoeur, un philosophe protestant, résumait bien l'affaire en disant que si Dieu est tout-puissant, alors que nous disons aussi qu'il est amour, comment se fait-il qu'il y ait autant de malheurs et de souffrances dans le monde, autant de ratés dans l'histoire ? Fin de citation. Une toute-puissance au service de l'amour devrait éliminer tous les problèmes du monde. N'est-ce pas ? La faim, les injustices, les violences. On peut passer la diapo suivante. Je ne suis pas très fort en maths, mais il y a dans cette équation Dieu tout-puissant plus Dieu amour plus présence du mal égale un gros problème, un problème insoluble. Si Dieu aime, s'il peut tout, et qu'il n'empêche pas les atrocités de se produire, que faut-il en conclure ? Alors, certains dégainent très vite pour répondre que c'est bien là la preuve que Dieu n'existe pas. Ou alors que s'il existe, que c'est un Dieu pervers qui s'amuse avec notre souffrance, ou qui nous dit d'un côté qu'il est amour et de l'autre côté que les ennuis pleuvent. Bref. Mais du côté de l'Église, la contre-attaque ne tarde pas. Tous les théologiens de l'histoire se sont frottés à cette problématique épaisse et ils ont souvent choisi l'approche apologétique, c'est-à-dire l'approche qui consiste à défendre Dieu, à justifier Dieu, pour résoudre l'insoluble équation qui est sous vos yeux. Et l'argument classique de cette approche apologétique, à grand renfort de passages bibliques, a été de dire que, eh bien, Dieu est au ciel et que nous sommes sur la terre, et qu'avec notre vue au ras des pâquerettes, il était impossible de sonder le mystère divin et le sens de l'histoire. Ce que nous interprétons au premier coup d'œil comme une injustice peut être en réalité un bien dans la perspective générale du plan de Dieu. Un peu comme le vaccin. Sur le moment, la piqûre, pas agréable, pas très agréable. En plus, cette piqûre vous injecte le mal, principe du vaccin. Et ça peut même vous rendre malade, un ou deux jours. Mais c'est pour un bien, c'est pour éviter de tomber gravement malade et peut-être de mourir. C'est QFD. Même si cette posture ne manque pas de bon sens et de soutien biblique, je dois avouer que la démonstration me laisse un peu sur ma faim. Pourquoi Dieu aurait-il besoin de tant de morts au combat pour obtenir la paix ? De tant d'injustices pour établir sa justice ? Une autre tentative de résolution de l'équation a été proposée, cette fois par le judaïsme. Et elle a de nombreux adeptes dans la théologie chrétienne. Elle dit, cette tentative, que Dieu, après avoir tout disposé dans la création, se serait contracté pour nous laisser exister en toute liberté. C'est ce que la Kabbale appelle le principe du Tzimtzum. C'est pas du vietnamien, hein. c'est de l'hébreu. C'est le principe du Tzimtzum, la contraction, le retrait de Dieu, pourrait-on dire. Dieu serait un peu comme un instituteur, une institutrice qui reste dans sa salle de classe pendant que les enfants s'étripent dans la cour d'école. Cela pose quand même un petit peu le problème de la responsabilité. Les professeurs des écoles confirmeront sans doute. Qui laisserait quelqu'un, un enfant, souffrir au prétexte que c'est sa liberté, son choix? D'ailleurs, la non-assistance à personne en danger n'est pas seulement un délit dans le droit commun, c'est aussi un principe biblique. Si tu vois l'âne de ton ennemi s'effondrer sous la charge, aide ton ennemi à remettre la bête sur ses pattes. Ce qui est valable pour l'âne de l'ennemi le sera à plus forte raison pour l'ennemi lui-même. Le principe de la liberté de l'homme qui expliquerait ce silence de Dieu et le désordre général pose problème. Et nous sommes toujours dans l'impasse. Et c'est l'apôtre Paul qui va ouvrir une voie nouvelle, une voie étroite, avec sa petite phrase, cette phrase somptueuse, « La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes ». Alors certains ont interprété cette faiblesse dans le grec, cette asthénie divine, comme une petite baisse de régime. Mais Dieu, même affaibli, resterait quand même beaucoup plus fort que l'homme. Et du coup, cette faiblesse de Dieu ne serait pas très différente de la superpuissance dont les religions investissent le divin. Et on revient au point de départ. Et pire, au nom du dogme de la toute-puissance divine, on risque de faire dire au texte de Paul le contraire de ce qu'il affirme. Paul nous dit que Dieu assume la faiblesse. Il ne s'agit pas d'une petite baisse de forme dans la performance divine, non, mais d'un état définitif, voulu et assumé, qui révèle la pleine identité du Dieu de la Bible. En Jésus-Christ, Dieu renonce radicalement à la puissance pour revêtir la faiblesse. Le texte grec est précis sur ce point, on peut mettre la diapo. Oui, c'est ça, la faiblesse, un article défini qui précède le mot asthénie, pour souligner que justement la faiblesse est une caractéristique du divin, un attribut du divin. Cette faiblesse divine n'est pas une défaite, une abdication devant le mal. Au contraire, elle est décrite par Paul comme une puissance d'opposition à la force, à la violence humaine. Puissance dont la croix est l'événement historique fondateur et le symbole, la représentation symbolique. Au verset 18, Paul nous parle de la parole de la croix. On pourrait traduire aussi la logique de la croix. Il s'agit du mot logos. La logique de la croix. À la croix, Dieu est faible au regard de ce que nous tenons pour fort. Nous nous attendions à quoi ? À ce que Dieu retire les clous qui retenaient le Christ sur sa croix ? Nous nous attendons à ce que Dieu détourne la trajectoire des missiles pour les jeter à la mer au lieu qu'ils atteignent des villages et tuent des innocents, dégâts collatéraux, dit-on. Nous attendions-nous à ce que Dieu coupe les fils des engins explosifs des terroristes qui nous trouvent des places de parking quand nous sommes en retard. Frères et sœurs, à chaque fois que nous nous représentons Dieu comme un pourvoyeur de solutions miracles aux grands problèmes du monde ou à mes petits problèmes personnels, nous sommes semblables à ceux qui, au pied de la croix, ont crié « Descends de la croix, sauve-toi toi-même ». Autrement dit, montre-nous ta puissance indiscutable. Le message de la croix nous appelle à nous affranchir de nos fantasmes de toute puissance pour nous abandonner à ce Dieu qui combat et qui aime dans la faiblesse, dans le secret. La question maintenant est de savoir où se trouve la puissance dans la faiblesse. Parce qu'il faut quand même le dire. Et Paul nous apporte une réponse étonnante. Face aux logiques du monde, ces logiques nous enseignent, vous le savez bien comme moi, depuis qu'on est tout petit, que devenir quelqu'un, c'est avoir beaucoup de bien. J'en ai fait l'expérience hier au catéchisme avec les jeunes. Je leur ai dit, c'est quoi la tentation pour eux ? D'avoir beaucoup de richesses, voilà, tout de suite. Oui, bien sûr, c'est aussi de réussir socialement, d'avoir de l'influence, d'être un influenceur, du pouvoir sur les autres. Voilà, c'est un peu tout ça. Eh bien, Paul oppose une autre logique. Il nous met très à l'aise, il dit c'est de la folie, cette logique-là. C'est une absurdité, c'est un scandale, tout ce que vous voulez. Enfin, en tout cas, cette logique dit que la puissance que nous pouvons saisir ici-bas et mettre en œuvre durant notre vie se trouve dans, écoutez bien, elle se trouve dans l'appel de Dieu. On peut mettre cette diapo. Considérez, frères, qui vous êtes. Vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Oui, il y a une folie ici-bas, un truc de fou. Dieu appelle. Il ne cesse d'appeler notre humanité à s'ouvrir à cette vie nouvelle inaugurée par le Christ sur la croix. Dieu s'adresse par sa parole ou au travers des circonstances de la vie à chacun d'entre nous. Souvenez-vous un peu comme Élie qui, après avoir vu le feu passer, entendu l'ouragan et ressenti même le tremblement de terre, discernera enfin la voix de Dieu dans la brise légère. Ainsi va l'appel de Dieu. Il nécessite un peu de silence, un peu d'attention, un peu de foi, un peu de foi. Il n'est pas tapageur. Cet appel de Dieu n'est pas nécessairement une expérience mystique, intérieure, ineffable. L'appel de Dieu indique clairement un chemin à prendre, une vie à mener. Il indique des choix à faire, des choses à quitter et des promesses à saisir. Mais ces promesses de Dieu ne sont jamais là où le monde les voit. Parce que Dieu choisit les choses folles du monde, c'est-à-dire celles que personne ne voit, celles qui ne parlent pas, dont la valeur, la puissance semblent nulles au premier coup d'œil, celles qu'on trouve ridicules, aberrantes, méprisables, méprisables parce qu'elles ne sont pas conformes au canon de la réussite tel que les publicitaires et les politiques nous l'enseignent. Finalement, on peut dire que Dieu est un appel d'air. Dans notre monde confiné, centré sur des évidences, des vérités qui sont aussi imposantes que versatiles et creuses, s'ouvrir à l'appel d'air que l'Esprit de Dieu souffle sur notre monde, c'est vivre. Vivre autrement. Vivre pleinement, vivre enfin. Ce puissant appel d'air va nous déplacer un peu loin de nos besoins immédiats, vers de nouveaux lieux de réflexion et d'action. Le plus souvent, vers la solidarité, vers le partage, avec les sans-voix, avec ceux qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus. Va nous orienter vers le combat pour plus de justice, de paix. Partout, des femmes, des hommes, des enfants sont atteints dans leur dignité, dans leur intégrité, dans leur liberté. L'appel de Dieu retentit pour nous et pour eux. En cet instant même, l'appel de Dieu retentit. L'entendons-nous? Le moment est venu pour chacun de mettre en œuvre cette divine folie qui se nomme amour, pardon, accueil, entraide, et qui, cette folie seule, peut transformer notre monde et le rendre réellement humain. Telle est la véritable puissance qui s'est dévoilée pour nous à la croix. Il me revenait ce cantique qu'on chantait il y a quelques années. « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » C'est le psaume 60. Nous sommes appelés ce matin à repenser notre rapport à l'exploit, à la puissance. La puissance dont nous parle Paul ici, qui se révèle dans la faiblesse, n'est pas celle qui écrase l'ennemi, c'est celle qui aime l'ennemi et qui lui tend la main. Personne n'a jamais entendu une parole comme ça. Avant Christ. Cette puissance se saisit par la foi, puissance qui est une puissance dévastatrice de tous les égoïsmes, puissance de vie et d'amour qui seule est capable de rendre l'espoir, la dignité, le salut à tous ceux qui se perdent ici-bas. Cette parole est une folie, un scandale, et nous rendons grâce à Dieu qu'elle puisse retentir ce matin dans nos vies. Amen.